Expérimental, qui est fondé sur l'expérience scientifique, nous dit le dictionnaire Larousse. Chacun visualise approximativement l'allure d'un laboratoire scientifique, avec ses tubes à essai et rongeurs difformes, mais ils ne sont pas tous identiques. En effet, les sciences dures n'ont pas le monopole des labos. Il existe par exemple des laboratoires d'économie. L'économie comme une discipline qui s'expérimente, c'est notre sujet du jour. Pas question ici de rats observés à la loupe, mais bien d'êtres humains dont les comportements peuvent nous faire comprendre bon nombre d'éléments que l'on pensait difficilement contrôlables. Ici, puisque l'analyse d'un contexte et des grandes théories économiques, ce sont les caractéristiques individuelles qui intéressent les chercheurs. Nos choix personnels peuvent par exemple, selon notre invité, expliquer les discriminations hommes-femmes sur le marché du travail. Voilà un exemple concret que nous aborderons dans cette émission et nous nous intéresserons plus globalement à l'intérêt que représentent de tels travaux, que ce soit pour l'individu, pour les pouvoirs public ou l'entreprise. Bienvenue dans Chercheur en ville.
Chercheur en ville, une émission proposée par Canal B en partenariat avec la Maison des sciences de l'homme en Bretagne et la Radio Université Bretagne Noire.
Bonjour à toutes et à tous, dernier numéro de la saison pour Chercheur en ville avec notre invité aujourd'hui, David Masclay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directeur de recherche CNRS en économie. Vous répondrez aujourd'hui aux questions de Xavier Debontry, journaliste indépendant. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Et Christian Lebar pour la MSHB. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Xavier, pardon, c'est à vous.
Merci Ronan. Effectivement, vous avez dans votre lancement, Ronan, insisté sur le fait qu'on pouvait faire de l'expérimentation en économie. C'est pas forcément spontanément l'image que l'on associe à un laboratoire d'économie expérimentale. Il va falloir que vous nous définissiez ces termes, David Masclay, pour qu'on comprenne d'abord qu'est-ce que c'est que cette discipline, l'économie expérimentale.
Oui, alors c'est une discipline qui apparaît dans les années 50 aux États-Unis et en Allemagne, de façon simultanée. C'est une discipline qui vise à sortir des grandes théories économiques, en tout cas de pouvoir les tester. Avec l'idée que l'économie, pendant longtemps on a considéré que l'économie était une science non expérimentale, et l'économie expérimentale justement vise à dépoussiérer un petit peu la discipline.
Est-ce que ça permet de mettre les acteurs, les agents économiques, hein, comme on dit dans la théorie, au cœur du système et d'observer leur comportement? Tout à l'heure, dans son lancement, Ronan Le Mouer évoquait les souris de laboratoire. Là, vous le remplacez les souris par des hommes et des femmes, c'est ça l'idée?
C'est ça. Alors, on s'inspire beaucoup en économie expérimentale des travaux en psychologie. Hein, les psychologues font des expériences depuis très longtemps. Longtemps, on a considéré le postulat de l'homo economicus, l'individu parfaitement rationnel qui va maximiser son utilité,
sous contrainte, hein,
ses profits,
la maximisation,
sous contrainte,
si j'ai bonne mémoire.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et l'économie expérimentale vise à enrichir un petit peu cet individu. On va parler plutôt de l'homo reciprocus. On va montrer que l'individu peut être aussi victime de biais cognitifs, qui prend pas toujours ses décisions de façon rationnelle. Un exemple, c'est pas la seule, mais une des raisons de la crise des subprimes, c'est que les individus ont été, et notamment les traders, ont été victimes de biais cognitifs, biais de surconfiance par exemple. Et donc on va avoir tendance à opposer ce qu'on appelle la finance classique à la finance comportementale, behaviorale, où on enrichit l'individu de tous ces biais cognitifs, des questions de rationalité, etc. Et donc, l'économie expérimentale, c'est tester en laboratoire les comportements individuels, voir que parfois les individus, voire même souvent, dévient des prédictions théoriques, et donc s'enrichir. In fine,
la théorie n'explique pas tout. Alors, Christian Lebart de la MSHB, une question pour notre invité.
Oui, je vais faire un long détour. Les sciences sociales ont longtemps été définies comme non expérimentales, en particulier l'histoire, la sociologie, enfin bon, les...
C'est ça d'ailleurs qui les distinguait, des sciences dures.
C'est ça qui les distinguait, elles se définissaient comme non expérimentales. J'ai deux exemples en tête d'expériences assez connues en sciences sociales et qui rappelleront peut-être des choses aux auditeurs. La première... expérience connue, c'est la fameuse expérience de Milgram sur le rapport à l'autorité, qui est une expérience qui date d'après-guerre où on testait la capacité des gens
à faire avec les impulsions électriques,
donc qui a été repris dans le film Icom Icar, qui avait été très contesté, mais qui avait quand même ouvert un très grand nombre de débats sur, et pas seulement aux États-Unis, sur la capacité d'individus
à
obéir et donc à exercer la violence quand on leur demande de le faire, donc dans le contexte que l'on sait. Et puis, une autre illustration, également cinématographique, c'est pour ça que c'est pas complètement un hasard, à mon avis, si les réalisateurs de cinéma se sont emparés de ça, c'est le truc d'Henri Laborie dans le film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, où il passe en permanence des souris de laboratoire et leur rapport à l'agressivité, au comportement des individus. Donc on voit la fameuse théorie, quand on est agressé, on devient soi-même agresseur, et c'est l'exemple de Gérard Depardieu qui, etc., etc. Donc voilà, pardon pour ce long
c'était
détour.
C'était la minute cinématographique de Christian Labarthe.
Ça me semble assez intéressant. Il y a, je pense, une fascination pour l'idée selon laquelle on pourrait, en laboratoire, avec la même précision et la même rigueur que nos collègues chimistes, physiciens, etc., isoler, en quelque sorte, l'individu et enfin le faire parler.
Voilà. On vous sent un peu sceptique en posant cette question.
Oui, on va y revenir, mais on va laisser notre invité répondre.
Alors oui, alors il faut peut-être définir ce qu'est un labo en économie. Hein, oui. Je crois que c'est le point de départ. Un laboratoire en économie,
c'est pas très spectaculaire d'abord.
Non, c'est une salle informatique. À la différence d'une salle classique, on a des isoloirs. Hein, l'idée, c'est de pouvoir s'assurer que les décisions prises par les participants sont anonymes.
On n'est pas influencé par son voisin.
Voilà, c'est ça. On n'est pas influencé par son voisin.
Conduite à l'université de Yale, aux États-Unis, cette expérience a permis de tester des individus ordinaires, tous d'accord pour aider la science à mettre au point un programme sur la mémoire. Deux sujets étaient convoqués. L'un devait retrouver une bonne réponse sur une liste de mots qu'il devait retenir en une minute. Installé dans une petite pièce, il était attaché à une chaise. À sa gauche, un bracelet électrique lui enverrait des punitions à chaque erreur.
On va justement chercher à isoler l'effet de certaines variables. Alors, comment on procède ? Les individus sont face à l'ordinateur et on a un serveur qui va envoyer un certain nombre d'informations. Les participants prennent des décisions soit de façon isolée, soit en interaction avec les autres participants dans la salle. On s'assure que le jeu est décontextualisé si, par exemple, on cherche à tester la question de la fraude fiscale. On va éviter de parler de fraude directement. Tout simplement parce que le mot fraude peut véhiculer...
Il est connoté. C'est pas bien de frauder.
Il y a un contenu émotionnel qu'on peut chercher à mesurer. Donc, dans ce cas-là, on aura un autre jeu dans lequel on introduit ce contexte. Mais l'idée, c'est que chaque jeu est comparé à un autre jeu et la différence entre les deux jeux, on a simplement une variable qui va changer. Le contexte, on augmente par exemple la taille du groupe, on rajoute de l'information. Et donc on essaye d'isoler l'effet de chacune de ces variables sur les comportements individuels ou collectifs.
Est-ce que ça veut dire que les étudiants, parce qu'en l'occurrence ce sont des étudiants
majoritairement
hein, qui se prêtent à ce jeu, pour reprendre votre expression, est-ce que ça veut dire que les individus qui sont dans ces cabines connaissent la finalité des questions qui leur sont posées ou pas du tout? Quand vous travaillez sur la fraude fiscale, savent-ils eux-mêmes que c'est le sujet de l'expérience?
Non, pas nécessairement. Non. Ils vont le savoir après coup. Hein, on communique sur les résultats de l'expérience, mais l'idée, c'est vraiment décontextualiser. Donc, pour éviter d'introduire ces biais-là, on ne donne pas l'objectif hein, aux participants.
Christian Labarthe.
Ouais, est-ce que vous pourriez décrire très concrètement un protocole d'enquête
pour oui, tout à fait.
Ça se passe où d'abord oui. Ça se passe Placoche.
Alors ça se passe à la faculté de sciences économiques, Placoche. Dans le laboratoire s'appelle le LabEx-M, laboratoire d'expérimentation en économie et management. Alors comment se déroule une expérience? Je vais prendre l'exemple d'une expérience qu'on appelle une expérience de bien public. Alors dans une expérience de bien public, on va essayer d'identifier ce qui se passe au sein d'un groupe. Au sein d'un groupe où chacun a la possibilité de contribuer à un projet commun. Et le montant collecté va être partagé à égalité entre les membres du groupe. Alors prenons l'exemple de 4 personnes qui ont chacun une dotation de 20 unités, 20 euros, et ont la possibilité de contribuer à un projet. Et chacun va recevoir 40% par exemple du projet. Collectivement, tout le monde a intérêt à contribuer au bien public, hein, au projet. Individuellement, je peux me dire, j'ai intérêt à ce que les autres contribuent, et moi, j'ai intérêt à ne pas contribuer, je vais me comporter en passager clandestin. Un exemple, c'est le tri sélectif des déchets. Tout le monde a intérêt à trier les déchets pour le bien-être de tous et des générations futures. Mais individuellement, je peux me dire, mais finalement, bon, moi, si je ne trie pas mes déchets, ça ne va pas changer la face du monde. Et donc, j'ai intérêt à ne pas le faire en me disant, bon, y a un coût, hein, mon coût, il est pas monétaire, mais c'est un coût en termes de perte de temps. Il faut que j'ai plusieurs poubelles chez moi, de différentes couleurs. Évidemment, si tout le monde raisonne de la sorte, bah, personne ne trie ses déchets. Et donc, on a ce qu'on appelle en économie un problème de passager clandestin. Et donc, dans ce type d'expérience, on essaye de mettre en place, de tester des mécanismes pour éviter ce problème de passager clandestin. Comment s'assurer que les gens soient incités à davantage trier leurs déchets, par exemple.
Alors, vous avez rappelé que effectivement cette plateforme d'économie expérimentale se trouve au sein même hein, de la fac de Sciences Éco à Rennes. Il y en a 8 en France, je crois. Il y a une singularité du modèle rennais.
Alors, il y a une petite dizaine effectivement de laboratoires en France. On est un des plus gros laboratoires en France, hein, le LabEx-M. Alors, une singularité, bon, on réalise des expériences un petit peu sur tous les domaines. Néanmoins, je crois que peut-être une spécificité du labo, c'est qu'on s'intéresse à la question de la coopération, notamment la coopération au sein de groupe, et puis la question de la théorie de la décision, c'est-à-dire comment les décisions individuelles sont affectées par mon aversion pour le risque, mon aversion à l'inégalité. Ma préférence pour le présent, voilà. Donc, je crois, voilà, coopération et théorie de la décision.
Christian.
Alors, le modèle que vous avez présenté tout à l'heure, qui est un modèle transversal à l'ensemble des sciences sociales, hein, l'individualisme méthodologique, c'est-à-dire le modèle qui consiste à intégrer dans l'analyse du social le moment du calcul de rationalité individuelle, je pense que c'est incontestablement un progrès dans les sciences sociales quand ce modèle s'est imposé. De la façon dont vous le présentez, c'est-à-dire dans le cadre d'une économie expérimentale, est-ce qu'il ne pose pas un problème autour d'un risque d'artifice? Alors, le grand débat autour de l'expérience ou de l'économie expérimentale, c'est évidemment celui-là, c'est-à-dire si on parle de coopération, par exemple. Bon, l'intérêt que je peux avoir dans certaines situations de la vie sociale à coopérer avec autrui. Donc, alors, il y a évidemment des situations où je suis amené ou pas à coopérer avec des gens que je ne connais pas. Par exemple, si je suis dans le bus, qu'il y a quelqu'un qui se comporte de façon bizarre, est-ce que je descends ou est-ce que j'aide la personne? Mais dans la grande majorité des cas, la question se pose pour des gens qui se connaissent entre eux. C'est-à-dire la coopération, c'est au sein d'une entreprise, au sein d'une association, au sein d'une famille, etc. Donc, est-ce qu'on risque pas, donc je formule brutalement la question, mais il me semble qu'on est au cœur du sujet, est-ce qu'il n'y a pas des risques d'artifice en oubliant que nous ne sommes pas dans la vraie vie, dans une situation de laboratoire, et que vous avez dit tout à l'heure, on met de côté la variable émotionnelle. Moi, je pense que dans ma vie, ma disposition à coopérer avec autrui, elle est plus liée aux émotions que au mécanisme olsonien que vous évoquiez.
Alors, deux choses. On ne met surtout pas de côté les émotions, au contraire, on va les on va les mesurer. Bon, on les mesure en les isolant du reste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est finalement, on ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. Hein, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans le pire des cas. On se met en situation où, effectivement, on sait que les liens sociaux améliorent la coopération. On se positionne ici dans une situation où on n'a pas ces liens sociaux. On est en situation où tout est fait finalement pour que la coopération n'émerge pas. On est dans la pire des situations. Et comment, dans ce cas-là, essayer d'améliorer le niveau de coopération? D'accord. Donc, évidemment, on peut ensuite introduire une variable supplémentaire, c'est l'importance des liens sociaux. Faire venir, par exemple, des personnes qui se connaissent déjà, voir si ça améliore la coopération. Mais voilà, ce qui est important, c'est évidemment, si tout fonctionne, l'intérêt de l'économiste est plus limité. Là, on s'intéresse vraiment au cas où finalement, bon, on est dans une situation bloquée, il n'y a pas de coopération. Comment la faire émerger?
D'accord.
Alors, pour poursuivre la question de Christian Lebart, me vient une interrogation sur la constitution des panels. Lorsqu'on en fait un sondage, on a toujours un échantillon représentatif. Comment vous assurez-vous ou pas de la représentativité des personnes qui se prêtent à l'expérience, sachant qu'ils sont tous volontaires et qu'aussi, et c'est important que nos auditeurs le sachent, ils sont incités financièrement à participer à l'expérience. Ça fait partie même du modèle. Expliquez-nous ça.
Oui. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que de fait ça introduit des biais, ça en introduit certainement, c'est ce qu'on appelle des biais de sélection, on peut se dire que les gens qui viennent sont, alors c'est essentiellement des étudiants, donc ça c'est un premier biais. Deuxième biais, c'est ils sont rémunérés, donc je peux finalement n'attirer que ceux qui viennent pour l'appât du gain.
Ça paye bien le LABEX ?
Alors, pour une expérience qui va durer une heure, le gain moyen est de 15 euros. On rémunère au coût d'opportunité.
Et vous payez en euros, pas en pinte de bière.
Et on paye en euros. Ensuite, libre aux participants
de convertir ou pas.
De convertir en pinte de bière, s'ils le souhaitent. Bon, on paye au coût d'opportunité, ça veut dire que quand on réalise on ne réalise pas que des expériences avec des étudiants, on va réaliser des expériences aussi avec des banquiers, avec des travailleurs indépendants. Dans ce cas-là, on paye au coût d'opportunité. Le coût d'opportunité d'un banquier n'est pas le même que le coût d'opportunité d'un étudiant. Il y a un biais de sélection, ça c'est évident, on essaye de limiter ce biais-là. Maintenant, il faut bien voir que quand on réalise une enquête, il y a un certain nombre de biais. Les gens enquêtés sont appelés entre 8h et 18h et souvent, bon, on va avoir tendance à surreprésenter les personnes qui ne travaillent pas. Alors, on corrige ex post pour ces biais-là. Avoir à l'esprit, c'est que pour un certain nombre de jeux, des travaux ont montré que qu'on prenne des étudiants, qu'on prenne des salariés, d'autres personnes, n'a pas d'incidence majeure sur les résultats. Je parlais du jeu de bien public, des travaux ont montré que les résultats qu'on observe sont assez robustes au choix des participants. Et ensuite, pour des questions bien précises, si on s'intéresse par exemple à qu'est-ce qui détermine mon souhait d'entrer d'être entrepreneur, je vais évidemment recruter pour l'expérience des travailleurs indépendants.
Alors, peut-être pour prolonger une question antérieure, j'aimerais bien que vous nous décriviez ce que vous attendez des étudiants en question. C'est-à-dire qu'ils répondent à des questions ou que s'établisse entre eux une relation de coopération, etc. Pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'on leur demande?
Alors, si je reprends l'expérience que je mentionnais de bien public, le participant lit les instructions du jeu et on va par exemple lui donner les informations suivantes. Voilà, vous êtes dans un groupe de 4 personnes, vous avez une dotation de 20 unités et vous avez la possibilité de contribuer à un projet commun entre 0 et 20, quel est le montant que vous souhaitez contribuer à ce projet commun, sachant que la somme récoltée sera partagée à hauteur de 40% chacun. Le jeu peut être ce qu'on appelle en one shot, c'est-à-dire il est joué qu'une seule fois, ou alors joué de façon répétée sur 10 périodes. Et on va voir si justement le fait de répéter le jeu améliore ou pas la coopération, parce que les gens vont apprendre à se connaître, ils peuvent aussi réciproquer, ils peuvent se dire, je peux être potentiellement coopérateur, et ça c'est un gros souci dans ces expériences, c'est-à-dire que dans un groupe de quatre, si vous avez des gens qui sont au départ potentiellement bienveillants, coopérateurs, mais qui voient qu'ils sont confrontés à des gens opportunistes, ils vont avoir tendance à réciproquer ce comportement, et le drame ici, c'est qu'il suffit qu'il y ait un seul passager clandestin, un seul participant opportuniste pour tirer le groupe vers le bas. Ce qu'on observe dans ces expériences, c'est qu'au départ, on a un niveau de coopération qui est niveau moyen, on va dire, hein, les gens contribuent à peu près à la moitié de leur dotation, et puis progressivement, on tend vers zéro coopération.
C'est un petit peu l'ancien modèle du dilemme du prisonnier où les gens se comportent différemment selon qu'ils savent ou pas ce que seront les choix des autres. C'est-à-dire, selon que le choix se fait en aveugle ou de façon transparente, les choix ne sont pas les mêmes.
Voilà, ils ont tendance à réciproquer le comportement des autres.
Enquête cette semaine, l'histoire troublante d'un essai clinique qui a mal tourné pour des cobayes.
Quand je trouve à peu près 7 000 $ et qu'on me dit non, t'inquiète pas, tu mourras pas à la fin, c'est ça que je cherchais, quoi.
Qui n'est pas tenté par les sommes alléchantes offertes par les compagnies pharmaceutiques pour participer comme cobaye à des essais cliniques sur de nouveaux médicaments? Il y en a chaque année des milliers au Canada. Mais il n'est pas certain que tout se fasse toujours en toute sécurité.
Et alors justement, est-ce que vous concevez ces jeux et ces expériences sur la base de théories que vous cherchez à valider à travers ces modèles, ou est-ce que, à l'inverse, les expériences en question peuvent ouvrir de nouvelles voies de la recherche théorique ?
Alors, ce que vous dites est très intéressant parce que ça pose la question des objectifs de l'économie expérimentale. Il y en a trois qui avaient été évoqués par Roth en 1987. Le premier objectif de l'économie expérimentale, c'est tester les prédictions des théories existantes. Hein, c'est parler aux théoriciens.
Donc on part du modèle théorique et on essaie de voir dans la vraie vie ce que ça donne.
Voilà, et on essaie de voir si on valide ou on invalide les prédictions théoriques. Sachant que ce modèle, il repose sur le postulat de l'homo economicus, un individu parfaitement rationnel qui cherche à maximiser sous contrainte son utilité, son profit. Ça c'est le
premier axe.
Le premier axe. Le deuxième objectif, c'est on a un certain nombre de situations qui sont peu ou mal théorisées. Et donc on va avoir une approche plutôt exploratoire par les expériences.
Par exemple.
Alors,
qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là dans ce deuxième champ de l'analyse ?
Alors, on va partir ici plutôt des faits. On va prendre par exemple ce qui se passe en entreprise. On a des pratiques managériales. Il n'y a pas de théorie derrière, mais
on sent bien confusément qu'il se passe quelque chose.
On se pose la question, est-ce que les pratiques qui sont mises en place sont efficaces ou pas? Est-ce que ça peut, est-ce que par exemple mettre en place des incitations très fortes n'a pas des effets pervers sur la coopération? Est-ce que ça génère pas trop de compétition? Est-ce que ça tue pas finalement la performance? Et donc on va chercher à explorer ces situations mal théorisées.
Et à les théoriser davantage.
Voilà.
Et le troisième objectif,
alors,
puisqu'il y en avait trois d'annoncés,
c'est chuchoter à l'oreille des princes. C'est-à-dire
c'est joliment dit,
aider le décideur, qu'il soit public ou privé.
À son initiative, à sa demande?
Alors parfois, oui. Parfois, j'ai un certain nombre d'exemples en tête. Sur les questions d'enchères, par exemple, l'État de Virginie, dans les années 2000, avait mandaté l'équipe d'un expérimentaliste renommé, Charles Holt, pour établir des procédures d'enchères. Dans le cadre de la gestion des ressources en eau. Et puis, Alors, donc ça, c'est plutôt un aspect aide à la décision publique. Les entreprises peuvent également recourir à l'outil expérimental.
Elles vous connaissent pour ça. Elles peuvent avoir ce réflexe de vous solliciter, les entreprises, notamment les entreprises du bassin rennais ou de Bretagne.
En France, l'approche expérimentale est... Disons que le lien entre l'entreprise et le milieu universitaire est moins important que ça ne peut l'être aux États-Unis, par exemple.
Il y a la Fondation Rennes, quand même, à l'Université de Rennes, qui travaille entre ce lien université-entreprise.
Mais disons que la culture n'est pas la même que dans le milieu anglo-saxon, où
c'est plus naturel.
Donc, c'est encore pas rentré dans les mœurs, oui.
Eh bien, on va peut-être se prendre une petite respiration musicale en écoutant un morceau du groupe De La Soul, bien nommé The Magic Number. C'était un morceau qui a été diffusé en 1990. Ça nous ramène un petit peu aux origines de vos travaux. On l'écoute.
The magic number three. Somewhere in this hip-hop soul community was born three, Mace, Dub, and me, and that's the magic number.
What does it all mean?
Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing three parts. Casually see, but don't do like a soul. Cause seeing and doing are action for monkeys. Doing hip-hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Three. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase in Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Dosey does your daughter. A tri-camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. Y'all in your Quebec, that the action not a trick, but show me the function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number.
Three.
This here piece of the pie is not dessert, but the cost that we dine, and three out of every darn time, the effect is, where the daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three? Mace, Posse, me, and that's the magic number.
What does it all mean?
Focus is formed by flaunt of the soul. Souls who flaunt style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dumb and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug.
Three.
Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number.
Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one.
What is it?
One, two, three.
That's a magic number.
Yo, what's up?
One, two, three. And say, children, what does it all mean?
One, two, three. I would lie to you.
No more, no less. That's a magic number. No more, no less. No more, no less. No, 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 no more, no less. No more, no less. No more, no less.
Anybody in the audience ever get hit by a car?
No more, no less.
De La Soul à l'instant sur Canal B avec le morceau de Magic Number. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en Ville pour cette dernière émission de la saison. Nous recevons l'économiste David Masclay. Avec lui, nous évoquons l'économie expérimentale, une autre manière d'analyser nos comportements économiques. Durant toute une première partie, notre invité a défini les contours de cette discipline qui s'inspire en partie des travaux en psychologie. Et dans cette deuxième partie, on va s'intéresser aux objectifs objectif de l'économie expérimentale et son intérêt dans l'aide à la décision publique, même si certains décideurs peuvent être effrayés par de telles méthodes, des pratiques qui peuvent en tout cas, comme nous le dira notre invité, expliquer les discriminations à l'embauche dont sont victimes les femmes par exemple. Suite et fin de Chercheurs en ville, tout de suite donc avec notre invité David Masclay qui répond aux questions de Xavier Debontry et de Christian Lebar.
David Masclay, on reprend avec vous cette exploration de l'économie expérimentale, puisque au sein de l'Université Rennes et de la Faculté de Sciences Économiques, vous animez ce laboratoire d'économie expérimentale assez unique. Et dans ces travaux, on va revenir un petit peu sur les objectifs. Juste avant la pause musicale, vous nous expliquiez les différents objectifs poursuivis par ces travaux. J'aimerais savoir si les entreprises, on était resté là-dessus, peuvent vous solliciter directement. Est-ce qu'il y a eu des initiatives concrètes avec peut-être des grosses PME ou des grandes entreprises de la région pour tester un modèle, pour tester notamment le comportement des consommateurs à l'égard d'une innovation marketing ou technologique?
Alors, à ce jour, non. On est plutôt orienté sur l'aide à la décision publique. On a réalisé des travaux en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie. Nos études alors sont essentiellement financées par l'Agence nationale de la recherche, par différents ministères. J'ai eu l'occasion moi de travailler au Canada dans un laboratoire qui s'appelle le Cyrano, où là on a un ancrage beaucoup plus important avec un lien plus fort avec
la sphère privée, le monde économique.
La sphère privée, le monde économique, et puis également les ministères qui viennent, qui sollicitent le laboratoire pour faire des expériences.
Mais sur la base de la MSHV.
Si je comprends bien, à partir du moment où on travaille sur la coopération, en fait, on intéresse bien davantage les gestionnaires de l'espace public que, pour reprendre ce que disait Xavier, les consommateurs, parce que vous travaillez pas tellement sur le choix individuel d'achat, vous travaillez bien davantage sur la façon dont des choix individuels interfèrent les uns avec les autres et s'effectuent en connaissance du choix des autres. Donc à mon avis, on est au fond assez directement sur des questions de politique publique, voire de coopération démocratique, non ?
Oui, on est sur une dimension plutôt politique publique. On a aussi des travaux qui s'intéressent à l'entreprise, à la question des déterminants, de la motivation au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qui motive les salariés? Est-ce que les systèmes d'incitation mis en place dans les entreprises sont efficaces? Quelles sont leurs limites? Donc là, on est là pour
l'arbitrage salaire temps de travail, par exemple, pourrait être étudié.
Par exemple, ou salaire conditions de travail, l'importance du statut dans l'entreprise, l'arbitrage entre motivation monétaire et non monétaire. Motivation non monétaire, oui.
Il y a aussi des travaux que vous avez menés, que vous continuez de poursuivre, qui sont vraiment intéressants sur le rapport homme-femme, la discrimination homme-femme, notamment à l'égard du marché du travail. On en parle beaucoup actuellement. Vous avez tenté de modéliser, ou tout du moins de vérifier comment la théorie pouvait rejoindre le constat réel, en mettant en situation vos étudiants ou vos agents économique là, en situation. C'est vraiment intéressant. Je vous propose qu'on s'arrête peut-être un petit peu en détail sur cette dimension-là, la discrimination homme-femme, parce que ça nous dit beaucoup de choses et ça se passe en laboratoire, mais la vraie vie n'est pas loin quand même.
Oui, tout à fait. Alors, les travaux qui portent sur la discrimination mobilisent différents outils. On a des données classiques d'enquête où on va par exemple mesurer les différences de salaire entre les hommes et les femmes, si on s'intéresse à ces écarts hommes-femmes. Concernant la discrimination à l'embauche, on recourt aux expériences, alors les expériences de terrain, où on va envoyer des CV, de faux CV, où on va changer une seule variable, par exemple le nom et le prénom de la personne, pour voir si toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire assez identiques.
Ceteris paribus.
Tout à fait. si cette variable-là, le sexe de la personne, par exemple, a un impact sur le taux de retour, hein, sur les réponses. Et donc ça, ce sont des expériences qu'on appelle les expériences de terrain. Et les expériences en laboratoire permettent aussi de mesurer cette discrimination à l'embauche et permettent aussi de tester la nature de la discrimination. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est déjà constater qu'il existe la discrimination, mais c'est aussi comprendre pourquoi.
Alors, comment ça se passe?
Pourquoi les gens discriminent?
Vous réunissez un panel constitué d'hommes et de femmes à égalité, à parité, et vous les testez, ou vous soumettez des CV, si on prend le cas de l'embauche, avec justement une variation entre proportion d'hommes et de femmes. Comment ça fonctionne concrètement?
Alors,
un test.
Concrètement, on invite les participants. Alors, dans le labo, on leur donne un rôle. Certains vont avoir le rôle de l'employeur, d'autres de l'employé. L'employeur reçoit un certain nombre de candidats qui sont avec différentes caractéristiques, leur niveau d'études, leur sexe, leur âge, etc. Et on demande aux employeurs de classer par ordre de préférence les candidats.
Sur les CV, hein, sur la base,
voilà,
des CV.
Tout à fait, sur la base de ces CV. Et donc ça nous permet d'isoler, de mesurer la discrimination à l'embauche. Alors il faut savoir que c'est effectivement des étudiants qui viennent participer à ces expériences.
Est-ce qu'ils sont suffisamment aguerris justement pour se prêter à ce rôle-là? L'embauche, le recrutement, c'est un métier, ça nécessite quand même des compétences, des prérequis. Est-ce que là, on n'est pas un petit peu à la limite de l'exercice en faisant appel à des gens qui ne sont pas eux-mêmes encore sur le marché du travail?
Oui, mais finalement, on se positionne dans la pire des situations pour observer la discrimination. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, les gens plus éduqués discriminent moins. Les étudiants discriminent en moyenne moins que les autres. Et donc on se positionne dans la pire des situations, c'est-à-dire que si on observe en laboratoire, malgré tout, de la discrimination, ça veut dire que
dans la vraie vie, ça va être pire encore,
voilà,
c'est ça?
Ça va être pire encore.
Sachant que, comme on est un peu en apesanteur sociale, les gens vont quand même plutôt aller du côté de l'exemplarité, c'est-à-dire on va plutôt mobiliser les règles les plus exemplaires de la vie sociale.
Voilà, et donc si malgré tout, on observe la discrimination, c'est que le phénomène est important.
Il y a un coefficient multiplicateur qu'on pourrait appliquer à la sortie.
Tout à fait. On va aussi chercher donc à essayer de comprendre ce qui incite les gens à discriminer. On a deux grandes théories en économie. On a une théorie qui s'appelle la théorie test-based, des années 50, de Gary Baker, selon laquelle l'employeur discrimine par goût, c'est-à-dire qu'il va recruter des personnes de son groupe de référence.
Qui lui ressemble.
Et ça, c'est un coût. C'est un coût. Si je suis un homme aux États-Unis, un homme blanc, j'ai tendance à recruter plutôt des hommes blancs. Et le coût, il est à l'auteur de ce que Gary Baker définissait comme un biais cognitif, un biais ici test-based, hein, de discrimination par goût. Dans la mesure où il peut passer à côté d'un candidat qui serait meilleur.
Donc ça supposerait que les femmes recrutent des femmes et les hommes des hommes, alors, du coup.
Ça supposerait cela, et ça suppose ici que je connais finalement le niveau de performance des individus, et que malgré ça, je préfère, en raison de ce biais-là, recruter, en connaissance de cause, donc recruter quelqu'un de mon groupe de référence. Donc ça a un coût, c'est un coût économique. La deuxième théorie, c'est une théorie qu'on appelle de discrimination statistique, où là, on fait le postulat que l'employeur, quand il recrute quelqu'un, il ne connaît pas la performance de l'individu. Alors, il va essayer de l'approximer, il va essayer de l'identifier. Le premier signal qu'il cherche à identifier, c'est le niveau d'études. À partir du moment où, du moins, il peut penser que si l'individu finalement a été productif pendant ses études, c'est-à-dire a atteint un certain niveau de diplôme, il devrait être en mesure de redéployer.
C'est une forme d'assurance sur.
Voilà, c'est une forme d'assurance
sur l'employabilité.
Voilà. Le problème, c'est que au-delà de ce niveau d'études, l'employeur va chercher à interpréter d'autres signaux. la couleur de peau, le sexe de la personne, pour en inférer un certain niveau de productivité. Et ça, c'est la discrimination statistique, c'est-à-dire que l'individu, finalement, s'il était parfaitement informé, qu'il n'y a pas de différence de performance entre les hommes et les femmes, il ne chercherait plus à discriminer.
Donc ça veut dire que c'est la question des stéréotypes, en fait.
Et c'est la question, tout à fait, des stéréotypes. Alors c'est la question des... Et cette question-là, de la nature de la discrimination, on est en mesure de la tester en laboratoire. On va voir, par exemple, si lorsqu'on donne plus d'informations à l'employeur, sur la performance réelle de l'employé, est-ce qu'il continue ou pas à discriminer ? S'il continue à discriminer, ça veut dire que la discrimination est test-based, par goût. S'il arrête de discriminer, ça veut dire que c'était une discrimination plutôt statistique.
Donc ce qui me laisserait penser que le stéréotype joue d'autant plus que l'employeur est sous-informé. C'est-à-dire que plus le CV est complet, plus l'entretien d'embauche dure longtemps, moins il y a de risques que l'employeur infère des choses à partir de l'identité de la personne qu'il a en face de lui.
Oui, tout à fait. Et c'est là où les pouvoirs publics ont un rôle fondamental, c'est casser justement ces stéréotypes.
À 24 ans et un BTS commerce international en poche, Mounji Ahmed n'a jamais décroché de travail et très peu d'entretien. Sur son CV, il ne cache rien, ni son nom, ni sa photo, ni son quartier.
Alors je rappelle que vous avez d'ailleurs obtenu pour ces travaux en économie expérimentale la médaille de bronze du CNRS, qui est une distinction vraiment importante dans votre discipline. Et est-ce que ces études permettent, et ça prolonge la question de Christian Lebart, de modifier l'environnement, de mettre en place des mesures, j'allais dire, sinon contracycliques, du moins, qui vont corriger les biais que vous avez pu identifier à travers vos expériences? Parce que c'est ça l'idée, il faudrait pas que ça reste en laboratoire, il faudrait que les enseignants puissent être utilisés pour améliorer la situation générale.
Oui, c'est ça. La finalité d'un économiste, c'est finalement aider à la décision, qu'elle soit publique ou privée. Et donc, y a plusieurs cadeaux. Le premier, c'est finalement la diffusion de ces études peut potentiellement permettre de changer les mentalités.
Alors, on vous sent prudent dans votre expression. Est-ce que ça veut dire que ça ne va pas aussi loin que cela pourrait aller ou que vous le souhaiteriez, cette prise en compte, justement, des recommandations ou des constats que vous avez contribué à mettre en lumière?
Mais je crois que, de façon générale, on a... Je pense encore un système assez cloisonné entre les décideurs, que ce soit public et privé, puis le monde universitaire.
Mais est-ce que vos travaux font pas un peu peur? Excusez-moi, Christian Lebart, je vous redonne la parole juste après. Est-ce que justement se dire, oh là là, mais des études en laboratoire, ça fait un peu peur, on se demande si les données sont pas un peu manipulées, est-ce que c'est pas un frein finalement à leur diffusion et à leur acceptation par les décideurs, publics ou privés? L'origine même de vos travaux.
Alors, ça peut faire peur dans la mesure où, effectivement, on va disséquer les comportements et donc montrer que les individus ne sont pas toujours rationnels, qui prennent des décisions parfois irrationnelles, mais ça fait partie...
Mais ça, c'est plutôt une bonne nouvelle,
c'est
l'humain,
plutôt une bonne
ça.
Nouvelle. Mmh.
On n'est pas des robots.
C'est qu'on introduit, on réinjecte de l'humain dans un monde qui était complètement aseptisé. Je crois que ça a longtemps fait peur les théoriciens, parce qu'il y a une remise en cause des théories. Théories économiques. Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs, hein, l'économie expérimentale. Est devenu mainstream.
Christian Lebar.
Oui, alors deux choses. Est-ce que sur la question de la discrimination à l'embauche, ce que vous dites au fond plaide, si j'ai bien compris, pour le CV anonyme, il me semble. C'est-à-dire pour la neutralisation de tout ce qui vient troubler l'évaluation des compétences.
Ah oui, clairement, oui, tout à fait.
Donc il y a quand même là, je ne dis pas que c'est un effet direct de l'économie expérimentale, mais il y a quand même des avancées sociales qui sont liées à tout ce qu'on est en train de dire là.
Oui, que ce soit les expériences en laboratoire ou les expériences de terrain, qui ont mis en exergue l'ampleur de la discrimination à l'embauche, plaident en faveur des cibles anonymes. C'est-à-dire que longtemps, on s'est focalisé sur les écarts de salaire. Le problème, c'est que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. La discrimination la plus importante, elle se passe avant, elle se passe en amont, c'est la discrimination à l'embauche. C'est plus difficile de la mesurer, et c'est par justement ces CV, ces faux CV qui sont envoyés, c'est par les expériences en laboratoire qu'on va pouvoir l'isoler.
Alors David Masquet, vous venez d'introduire une dimension sur laquelle j'avais envie justement de vous entraîner, qui est les différences salariales entre hommes et femmes, qui sont, on le sait, une réalité objective et mesurée. Vous avez travaillé à travers des expériences sur ce sujet, pour tenter, j'imagine, de voir d'abord d'où ça vient et peut-être comment il est possible de les réduire, ces écarts. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors... On a souvent en tête des écarts de salaire autour de 20%, hein, entre les hommes et les femmes. Heureusement, ces 20%, ce n'est pas que de la discrimination. Il y a des différences qui s'expliquent par des facteurs économiques. Il y a des différences en termes de temps de travail, davantage de temps partiel chez les femmes que chez les hommes. Des différences également dans les secteurs d'activité. Les femmes travaillent dans les secteurs d'activité qui sont moins bien rémunérateurs que les hommes. Et une fois qu'on a contrôlé pour l'ensemble de ces variables, il reste une part résiduelle qui est à hauteur de 6 points de pourcentage, et c'est cette part-là qu'on ne peut pas expliquer économiquement, qu'on attribue à la discrimination. Maintenant, la question qu'on peut aussi se poser, c'est finalement dans la part expliquée par des variables économiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme un peu sournoise de discrimination? Est-ce que les femmes choisissent le temps partiel? Est-ce que c'est un temps partiel qui est choisi ou subi? Est-ce que si les femmes travaillent dans des secteurs moins bien rémunérateurs, est-ce que c'est pas une discrimination qui se passe, mais non pas sur la sphère du marché du travail, mais par exemple à l'école, dans la mesure où des travaux ont mis en exergue que consciemment ou inconsciemment, les enseignants allaient davantage orienter les hommes vers plus d'esprit de compétition, les femmes plus le respect de l'équité. Et tout ça conduit à des choix de filières différentes et qui se traduit in fine par des secteurs d'activité différents. À ça s'ajoute aussi un autre phénomène, ce qu'on appelle la discrimination anticipée, l'hypothèse d'atrophie. C'est si j'anticipe que je vais être discriminé sur le marché du travail, je peux me dire, bah, finalement, pourquoi faire des études ? Et donc, potentiellement, je vais faire moins d'études, ou alors je vais dire des secteurs différents. Et en bout de course, évidemment, ça devient autoréalisateur, c'est-à-dire que je me retrouve moins bien rémunéré sur le marché du travail.
Depuis 1800, différentes écoles de pensée économique se sont succédées. Tout d'abord, on a vu apparaître les bases de la science économique au travers des précurseurs. On y trouve deux courants. Tout d'abord, le mercantilisme, avec des auteurs tels Jean Bodin, Antoine de Montchrétien, William Petit et Thomas Mun, et la physiocratie, avec des auteurs tels François Quesnay, Vincent de Gournay et Richard Cantillon. La première moitié du 19e siècle a vu naître l'école classique, avec des auteurs tels Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus et Jean-Baptiste Say.
Christian,
au fil du raisonnement, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Vous êtes obligé d'introduire des dimensions qui ne relèvent plus de l'économie expérimentale. C'est-à-dire qu'au fond, là, on revient sur des grandes questions de sciences sociales classiques qui sont la fabrique des garçons et des filles à l'école, qui sont la définition socialement construite de ce qu'est un homme, de ce qu'est un homme qui a réussi sa vie d'homme, de ce qu'est une femme, de ce qu'est l'épanouissement masculin, féminin, etc. Et on est obligé de faire une hypothèse, là, pour le coup, très macro, qui est une hypothèse de, par exemple, d'investissement différent dans les trophées professionnels, etc., etc. Et alors, dire ça, ça m'amène une question qui est, au fond, qu'est-ce que l'économie expérimentale, du coup, apporte de spécifique et de singulier. Si je dis ça, c'est aussi parce que ce qu'on disait tout à l'heure, qui m'a beaucoup intéressé sur la discrimination à l'embauche, vous avez commencé par le dire. On le démontre aussi par des expériences de terrain qui, elles, pour le coup, ont l'avantage de ne pas être artificielles comme le sont les expériences de laboratoire, puisque on peut jouer sur des vrais CV, des vraies embauches. Donc, quelle est la valeur ajoutée, j'allais dire, finement, où est-ce qu'on est dans une logique où les techniques se complètent, se répondent et se...
David Masclet va vous répondre.
Oui, c'est ça. Il faut plutôt voir l'approche expérimentale comme une approche complémentaire aux autres approches. On a un arbitrage qui doit se faire entre d'un côté réalisme et de l'autre davantage de contrôle. L'avantage de l'économie expérimentale, c'est qu'on contrôle. On contrôle le contexte, on contrôle l'environnement. Mais le contrôle fait qu'on perd du réalisme. Les expériences de terrain, au contraire, c'est plus de réalisme. Et moins de contrôle. Donc, l'idée, c'est on a finalement trois outils dans notre palette. On a les données d'enquête, les données issues d'expériences en laboratoire, les données issues d'expériences de terrain. Et pour un même problème, on va tester à l'aide de ces trois outils et voir si on va dans la même direction. Alors, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a un certain nombre de problématiques qu'on ne peut pas mesurer autrement qu'en laboratoire. La question, par exemple, des normes sociales, de la pression par les pairs, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle existe dans les entreprises. Maintenant, comment l'isoler, comment la palper, c'est compliqué. Donc, il faut la faire émerger en laboratoire. Et c'est là qu'on a cette complémentarité. Ce qu'on ne peut pas tester autrement, on va le tester en laboratoire.
Mais quand on évoque tout ce que j'évoquais, c'est-à-dire la fabrique des hommes et des femmes, etc., est-ce que vraiment là, ça a même du sens de parler de quantification ? Enfin, est-ce qu'on peut hiérarchiser des facteurs ? Est-ce qu'on peut les ordonner ? Est-ce qu'on peut en mesurer le poids ? Ou est-ce que là, il n'y a pas... là, c'est une question directe à l'économiste. Est-ce qu'il n'y a pas une illusion de la quantification ?
Tout n'est pas possible à quantifier et à mettre en équation, c'est ça ?
Oui, je crois Oui, effectivement. Et d'ailleurs, justement, l'économie expérimentale, puis même plus généralement ce qu'on appelle l'économie comportementale, vise à ne pas tout quantifier, à montrer que l'individu, c'est pas une succession d'équations, c'est pas que de la rationalité, c'est des biais cognitifs, c'est de l'altruisme, de la réciprocité, des préférences sociales. Et je crois que ça, l'économie expérimentale réinjecte l'humain au cœur du système économique.
Ben, ça sonne presque comme une conclusion, mais on n'est pas encore arrivé au bout de cette émission. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on en profite pour aller voir du côté de votre avenir, justement, de vos projets. La rentrée universitaire 2016-2017, vous avez de nouveaux champs d'investigation que vous aimeriez arpenter. Est-ce qu'il y a des initiatives qui vont être prises par le laboratoire d'économie expérimentale de la faculté de sciences économiques de Rennes ?
Alors, oui, actuellement, là, je travaille sur la question de la motivation et notamment, qu'est-ce qui motive les individus ?
L'argent. Pas que.
Les motivations monétaires et puis non monétaires. Et alors là, justement, la question de l'argent, est-ce que finalement, une augmentation de salaire accroît ma satisfaction? Pas nécessairement. Ce qu'on sait, c'est que lorsque je reçois une augmentation de salaire, au bout d'un an, j'ai à peu près 50% de cette satisfaction supplémentaire que j'ai eue qui s'est évaporée. Alors pourquoi, et c'est un peu l'objet de mes travaux actuels, c'est que finalement...
On en veut toujours plus, non? C'est pas
alors,
ça
déjà, la rémunération, c'est pas un facteur de motivation, mais plutôt de démotivation. C'est-à-dire... Pas être suffisamment rémunéré va me démotiver, mais être bien rémunéré, après tout, au bout de quelques temps...
C'est normal,
quoi. Il y a un effet d'habitude. Il y a un effet d'habitude, c'est-à-dire que j'en veux toujours plus. Ça, c'est un premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est que ce qui me motive, c'est pas tant mon gain absolu, mais c'est mon gain relatif.
Par rapport aux autres.
Par rapport aux autres. C'est-à-dire que je me compare et je me compare à mes collègues. Je me compare et donc c'est plutôt le gain relatif qui va être important et que le gain absolu.
Et donc vous allez travailler là-dessus. Il y a des tests particuliers
voilà,
qui vont être mis en place l'année
tout
prochaine.
Tout à fait. En partenariat notamment avec le CNAM où on va essayer d'étudier cette question compliquée de la relation à l'argent entre rémunération et satisfaction. Montrer ce qu'on observe, par exemple, c'est que les individus sont prêts à perdre de l'argent pour réduire les inégalités. Ils sont généralement averses aux inégalités parce que trop d'inégalités va les démotiver. Et donc, voilà, on va s'intéresser un petit peu à ces facteurs-là.
Et vous aurez besoin donc d'étudiants et de, j'allais dire de cobayes, le mot est mal choisi, mais d'individus qui vont se prêter à ces jeux-là tout au long de l'année prochaine à la fac de Sciences Éco, au laboratoire d'économie expérimentale. David Masclet, merci beaucoup de nous avoir éclairé hein, sur ce pan de l'économie qu'on connaît finalement pas si bien que ça et qui correspond à nos actions presque quotidiennes. Nous arrivons au terme de cette émission. C'était la dernière de Chercheurs en Ville pour cette saison. Nous aurons le plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Canal B dès septembre prochain. J'en profite aussi pour remercier très chaleureusement Catherine Godet de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne et Anne Kropotkin de l'Université Bretagne-Loire qui nous ont tout au long de cette année aidé à préparer ces émissions. Merci à Christian Lebart, mon complice dans ce questionnement, et bien sûr au taulier de l'émission, Ronan Lemoyer de Canal B. À très bientôt.